un texte en introduction que vous avez à l'écran dans l'évangile de Matthieu. Je me servirai de ce texte juste comme point de départ et je le lis avec vous. Vous avez à l'écran en rouge les mots qui nous intéresseront particulièrement dans ce passage. Mais heureux sont vos yeux parce qu'ils voient et vos oreilles parce qu'elles entendent. Je vous le dis en vérité, beaucoup de prophètes et de justes ont désiré voir ce que vous voyez et ne l'ont pas vu, entendre ce que vous entendez et ne l'ont pas entendu. Amen. Heureux. Heureux parce que vous voyez, heureux parce que vous entendez des choses que d'autres auraient voulu entendre et voir, mais n'ont pas eu l'opportunité de le voir. Heureux chez le chrétien, être heureux, c'est un sentiment, si vous voulez, mais j'ai presque envie de dire que c'est un état normal chez l'enfant de Dieu, chez le chrétien, chez le croyant. Être heureux, ça doit être un état normal parce que ça vient de l'intérieur. Ça ne vient pas de l'extérieur. Évidemment, quand on voit l'été que l'on passe, quand les gens allument leur télévision, quand ils regardent dans un journal l'actualité, ben, ils ont du mal à être heureux, il faut le reconnaître, parce que tout ce qui vient de l'extérieur n'est pas très agréable. Il y a le problème de l'épidémie, il y a le problème de toutes sortes de difficultés, le travail, le chômage, etc. Donc, c'est difficile d'être heureux. Mais la joie du chrétien vient de l'intérieur. Elle est alimentée et elle est nourrie par ce qui se trouve dans notre cœur, à l'intérieur de nos vies et de nos cœurs. Alors face au monde visible, c'est quelque chose d'important à retenir, cela face au monde visible, il y a des réalités qui sont, elles, invisibles. Face au discours des hommes, il y a la parole de Dieu, le discours de Dieu, si vous voulez, et face à nos raisonnements, eh bien, il y a la foi. Alors, comment être heureux, sinon en vivant une triple victoire? Tout d'abord, une victoire sur le péché, mais en quel honneur? Bien, en vertu de l'Évangile, parce que l'Évangile libère du péché. L'Évangile nous donne la délivrance sur le péché. On peut être heureux parce qu'on aura pris la victoire sur Satan, et là, ce sera uniquement en vertu de ce que la parole de Dieu enseigne, et nous y viendrons en conclusion avec quelques textes bien précis. Et puis nous pouvons obtenir la victoire sur le monde dans lequel nous sommes, le monde dans lequel nous vivons, tout simplement là aussi, parce que nous avons la foi, et la foi nous permet de saisir de la part de Dieu, l'Écriture le dit, les plus belles et les plus grandes victoires. Alors, savez-vous quel est le point commun? Parce que s'il y a une triple victoire réservée aux chrétiens, il pourrait y avoir une triple défaite. Et ça, ce serait terrible. Savez-vous quel est le point commun entre ces trois hommes? Géasi, c'est un homme de l'Ancien Testament. Judas, le Judas que vous connaissez sans aucun doute. Et Démas, qui a été contemporain de l'apôtre Paul et qui a partagé pas mal de moments avec l'apôtre Paul. Le point commun? Ne lisez pas ce qui est écrit, hein. Trouvez-en. Ouais, trouvez autre chose. La cupidité, ouais. On va le trouver dans toujours cet évangile de Matthieu. Je vous le cite simplement à la suite du texte que l'on a lu tout à l'heure. Il est dit au verset 22, il était question d'une parabole, la parabole des semences. Jetées le long du chemin, jetées parmi les pierres, jetées parmi les épines ou dans de la bonne terre. Et voilà la conclusion, ou en tous les cas l'explication que Jésus en donne plus précisément. Il dira, celui qui a reçu la semence parmi les épines, c'est celui qui entend la parole, mais en qui les soucis du siècle et la séduction des richesses étouffent cette parole et la rendent infructueuse. Géasi, il nous est dit qu'il va vivre des moments franchement extraordinaires. On peut le dire, ces trois hommes-là ont vécu, ils ont été heureux pendant un temps. Judas, Démas, Géasi ont été heureux pendant un temps. Il ne leur manquait rien finalement, puisque Géasi était au service du prophète Élisée. tandis que Judas, lui, était au service de Jésus, et Démas a eu le privilège de servir Dieu aux côtés de l'apôtre Paul. Donc, c'était quand même des références, et leur entourage était bon, leur entourage était quand même agréable. Et bien, malgré tout, s'il ne leur manquait rien, ils avaient tout pour réussir, ils ont perdu. Ils ont perdu la partie, ils ont raté, et ça, c'est quand même terrible. Je lis dans l'Ancien Testament, dans le livre, dans le deuxième livre des Rois, qu'est-ce qui a fait chuter Géasi ? Un homme viendra vers le prophète Élisée, c'est un général syrien, il est couvert de lèpre, et il vient avec sa lèpre vers le prophète pour qu'il le guérisse, mais il vient aussi avec son argent. On a calculé, il est venu avec de l'or et de l'argent. On a calculé que cela, au cours actuel, pourrait représenter à peu près 3 millions d'euros. 3 millions d'euros. Il était prêt à payer sa guérison 3 millions d'euros. Et quand il est guéri, le prophète lui dit « Écoute, tu repars avec tes 3 millions d'euros. » Et l'autre dit « Non, je veux quand même donner quelque chose. » Et finalement, si le prophète refuse, c'était tout simplement pour que cet homme ne reparte pas en disant « J'ai payé ma guérison. » Comprenez ? J'ai acheté ma guérison. Parce qu'avec Dieu, on n'achète rien. Ce que Dieu nous donne, c'est un cadeau. Évidemment, c'est un cadeau. Alors, il le renverra avec cet argent, ce qui ne va pas plaire à son serviteur, à ce fameux Géasi. Et il va raisonner en lui-même, il va dire ceci. Voici, Élisée a ménagé Naaman ce Syrien en n'acceptant pas de sa main ce qu'il avait apporté. L'Éternel est vivant, je vais courir après lui et j'en obtiendrai quelque chose. Finalement, il se dit, bon, après tout, parce que quand on cherche son intérêt, je ne sais pas comment on fait, mais on arrive à tourner ce qui est totalement à notre désavantage, on arrive à le tourner pour faire en sorte qu'on finisse par croire que c'est avantageux de le prendre. Et c'est un peu ce qu'il va faire dans sa tête. Il dit, après tout, cet homme est venu avec cet argent, s'il est venu avec, c'est qu'il était prêt à le donner. Donc, on le laisse repartir avec tout. C'est un peu dommage. Je pourrais peut-être en récupérer un petit peu quand même. Ce ne sera pas du vol puisqu'il voulait le donner. Enfin, on peut tout inventer. Hein. On peut tout dire. Et il va aller vers Naaman, ce général, qui, tout étonné de le voir, va lui dire « Mais qu'est-ce qui se passe ?» Et là, il va mentir. Parce que c'était difficile de dire à cet homme « Écoute, mon patron t'a laissé partir avec l'argent, mais moi, j'aimerais bien que tu m'en donnes un peu. » Mais c'était difficile de dire ça. Alors il va se servir du nom de son patron, Élisée, et il va lui dire « En fait, il y a des gens qui viennent d'arriver à la maison, ce n'était pas prévu, et mon patron m'envoie te dire « Écoute, donne-nous quand même quelque chose, ça nous aidera. » Alors vous pensez bien, il est tout heureux de faire ce cadeau, alors il donne. Avant de rentrer à la maison, il va planquer l'argent, évidemment, parce qu'il ne peut pas rentrer avec ça devant son patron Élisée, ce n'est pas possible. Mais Élisée est un prophète, Dieu lui révèle des choses. Et quand Géasi arrive près du prophète Élisée, de son patron, Élisée va lui dire « Mais d'où viens-tu ?» Et il se sent repris. Hein. Il dit « Écoute, je n'ai été ni d'un côté ni d'un autre. » L'air de dire « Mais tu viens d'où là ? J'ai rien fait. Hein. » C'est ça que ça veut dire. Hein. « J'ai rien fait. Hein. » Il se sent un peu repris quand même. Hein. Et là, le prophète va lui dire « Écoute, est-ce le temps de prendre de l'argent, de prendre des vêtements, puis des oliviers, des vignes, des brebis, des bœufs, des serviteurs et des servantes. » L'air de dire, tu commences par ça, et après, qu'est-ce que tu vas vouloir ? Est-ce que c'est bien le moment de faire ça ? Est-ce que tu crois que c'est ça le plus important ? Est-ce que tu seras plus heureux si tu as plus d'argent ? Est-ce que tu seras plus heureux si tu assures ton avenir en disant, j'ai pas d'inquiétude pour ma retraite, j'ai mis de côté, j'ai capitalisé, j'ai des biens ? C'était pas ça le plus important. Parce que ce jour-là, il va être renvoyé. Il va quitter la présence du prophète Élisée. Et la Bible dit que la lèpre qui était sur ce général dont il avait été guéri va s'attacher à lui et instantanément, il va être lépreux. Il pensait vivre longtemps avec cet argent, cet or. Et la lèpre le condamne à mort sous peu. Il était heureux parce que ça venait de l'intérieur. Et il pensait l'être davantage. Avec ce qui venait de l'extérieur, il venait d'être vaincu par Satan, qu'il avait séduit par les richesses et par l'appât du gain. Judas, pas la peine de beaucoup parler de son histoire, vous vous souviendrez que c'était lui qui tenait la bourse des apôtres et de l'équipe. Et un jour, une femme vient vers Jésus et va briser un vase rempli d'un parfum, un nard pur de grand prix. Et cette femme va répandre le parfum sur Jésus. Ça va embaumer dans toute la pièce. Et Judas est en colère. Quel gâchis! Quel gâchis! On aurait pu vendre ce parfum sur le marché à quelques-uns. On en aurait retiré 300 deniers. La Bible dit dans l'évangile de Jean que Judas n'était pas en peine des malheureux parce que les 300 deniers, c'était pour nourrir les malheureux, disait-il. Il n'était pas en peine pour les malheureux, mais il était en peine pour lui parce que comme il tenait les cordons de la bourse, il piquait l'argent qu'on mettait à l'intérieur. Donc c'est pour lui. Il voit 300 deniers s'en aller en fumée ou plutôt en vapeur. Et ça lui déplaît. Quelque temps plus tard, c'est lui qui va aller vers les sacrificateurs pour dire « Combien d'argent me donnez-vous et je vous le livrerai. » 30 pièces d'argent. « Combien d'argent me donnez-vous » Il s'est perdu, lui aussi. Démas, il n'est pas dit grand-chose le concernant dans la lettre à Timothée, mais il est dit, malheureusement, en quelques mots cinglant l'essentiel, il est dit ceci, c'est l'apôtre Paul qui demande à son ami Timothée de venir rapidement le trouver. Il dira, « Viens au plus tôt vers moi, car Démas m'a abandonné par amour pour le siècle présent. » En fait, ces trois-là ont perdu parce que finalement, ils ont été séduits, je l'ai noté, hein, passion, envie, désir, possession, l'appât du gain, l'amour des richesses, ce sont des dangers. D'ailleurs, la Bible dit que l'argent est la racine de combien de maux, n'est-ce pas ? L'argent est la racine de combien de maux ? L'envie de posséder, l'envie d'avoir. En fait, ils n'auraient pas dû perdre. Ils n'auraient pas dû perdre, ils auraient dû gagner. Ils auraient dû vivre dans cette victoire dont on a parlé tout à l'heure, mais ils ont perdu. Pourtant, ils n'auraient pas dû perdre, frères et sœurs. Nous ne sommes pas appelés, si nous sommes chrétiens, croyants, si nous sommes attachés à Christ, si nous avons réalisé ce que Jésus a fait pour nous à la croix, nous ne sommes pas appelés à perdre, nous sommes appelés à rester dans la victoire. L'apôtre Paul dit dans l'Épître aux Romains, au chapitre 8 et au verset 1er, « Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. » Amen. Il n'y a donc maintenant aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ. Dit autrement, ça signifie que nous sommes passés de la mort à la vie. Nous sommes passés de la prison à la liberté. Nous avons été rendus libres. Nous étions dans la culpabilité. Nous avons découvert la grâce à la croix, là où Jésus meurt et pour nous, et nous avons découvert le pardon. Sans effusion de sang, il n'y a pas de pardon, dit la Bible. Eh bien, Jésus a versé son sang pour que le pardon de Dieu nous touche, pour que le pardon de Dieu nous atteigne. Et finalement, avant, nous étions humiliés, dans l'humiliation, nous étions tellement malheureux, il nous a sortis de là pour nous permettre de relever la tête. Quand quelqu'un se comporte mal, quand quelqu'un agit mal, il a tendance à baisser les yeux, il a tendance à porter le poids de sa culpabilité sur lui. Mais quand Christ vient dans sa vie, tout change et il peut relever la tête. Je me souviens de ce témoignage qui date de plusieurs dizaines d'années maintenant. C'est aux États-Unis que ça se passe. C'est dans la ville de New York. Et dans cette ville de New York, il y a à cette époque-là, il y avait les ravages de la drogue dans les années 70-80. Énormément de toxicomanes mouraient chaque jour d'overdose. Le sida était là. Et puis, plusieurs de ces toxicomanes étaient interpellés parce que dans ces quartiers-là, il y avait des chrétiens, il y avait des églises, mais très actives, qui voulaient montrer à ces gens que la vie, c'est autre chose que l'esclavage de l'héroïne, d'un joint ou quelque chose comme ça. Et puis, une de ces femmes qui était complètement accro à l'héroïne a entendu le message de l'Évangile et elle a accepté Christ dans son cœur. Elle a été délivrée. C'est spectaculaire, hein, délivrée de cette addiction à la drogue, complètement délivrée. Cette femme est arrivée dans l'église complètement détruite. Elle était toute jeune, elle avait 25 ans à peu près, et elle avait un passé lourd derrière elle, ça avait commencé à l'adolescence. Pour payer sa drogue, À votre avis, elle faisait comment ? Elle était devenue prostituée, forcément, parce que pour avoir de l'argent, c'était bien difficile, et dans ce monde-là, difficile de nouer des relations stables. Et donc, elle est arrivée à l'église avec tout ça sur le dos. Une vie détruite, se sentait tellement sale, évidemment. Et puis est arrivé ce qu'elle ne pouvait pas imaginer et qu'elle était loin d'imaginer, c'est que dans l'église, à un moment donné, bien, il y a un garçon qui s'est intéressé à elle, il l'a trouvée jolie, il l'a trouvée belle, il était amoureux d'elle. Mais elle, à cause de sa vie, mais elle a rejeté ce pauvre garçon une fois, 10 fois, 20 fois, elle l'a envoyé promener, parce que pour elle, finalement, ce garçon qui semblait bien, était bien, ne la méritait pas, méritait mieux, méritait une fille qui n'avait pas le passé qu'elle avait. Et donc, ça a duré pendant des mois, pratiquement une année. Et plus le temps passait, et lui était tenace, et plus cette pauvre fille était malheureuse parce qu'elle se disait « j'ai tout gâché, j'ai tout raté. J'aurais pu être heureux, j'aurais pu avoir une vie normale, et puis je suis passé à côté, et tout est fichu maintenant. » Et puis un beau jour, il s'est passé quelque chose en elle. Elle a réalisé que si Dieu l'avait pardonnée, c'était une nouvelle créature. C'était quelqu'un de neuf. C'était quelqu'un de nouveau, même si apparemment, évidemment, elle n'était pas nouvelle, elle n'était pas neuve, elle n'était pas. Son visage était ce qu'il était, avec toutes les marques de son passé qu'elle portait sur elle, évidemment. Mais finalement, elle avait été rachetée à un grand prix. Elle était née de nouveau. Et finalement, c'était une nouvelle personne. Il a fallu du temps pour qu'elle réalise cela. Et le jour où elle a vraiment réalisé cela, vous savez quoi ? Elle a arrêté de dire non à ce prétendant. Et ils se sont mariés et ils ont été tellement heureux. Il n'y a que Dieu qui peut enlever la culpabilité. Quand on est à ce point meurtri, et Dieu l'a fait, et cette femme a pu relever la tête, et le jour de son mariage, il n'y avait certainement pas de personne plus heureuse dans cet endroit-là qu'elle, parce qu'elle réalisait qu'avec Dieu, les choses anciennes étaient terminées et toutes choses devenaient nouvelles et c'était possible. Voilà ce que l'on ne perd pas lorsque l'on se donne à Dieu. Il change nos vies, il change nos cœurs, il nous délivre, il nous libère. Nous avons, c'est important de le réaliser, nous avons une promesse, mais qui est devenue un fait. Ce n'est pas simplement une promesse, parce qu'on dit, vous connaissez le proverbe, hein, les promesses n'engagent que ceux qui y croient. Hein. Non, c'est une promesse, mais c'est un fait. C'est accompli, ce que Jésus a accompli est réel. Alors, si je vais un peu plus loin dans cette lettre de Paul aux Romains, je vois au verset 34 aussi que ce qui permet de rester dans cette assurance-là, qu'il n'y a pas de condamnation sur notre vie, c'est que nous avons un défenseur. Et ce défenseur, c'est Christ, c'est Jésus lui-même. Verset 34, il est dit « Qui condamnera les croyants ? Christ est mort, bien plus, il est ressuscité, il est à la droite de Dieu et il intercède pour eux. » Nous avons un défenseur. Jésus est intervenu. Faut-il vous rappeler que lorsqu'il meurt à la croix, il agit une bonne fois pour toutes. Cette expression revient plusieurs fois dans l'œuvre que Jésus a accomplie. Toujours dans cette lettre aux Romains au chapitre 6, je vous le cite, et au verset 10, il est dit « Car il est mort » en parlant de Jésus. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Une fois pour toutes. Et il est revenu à la vie, et c'est pour Dieu qu'il vit. Jésus est mort à la croix, une fois pour toutes, pour le péché de l'humanité tout entière, de tous les hommes. Dans l'Épître aux Hébreux, au chapitre 9 et au verset 12, il est dit, « Il est entré une fois pour toutes dans le lieu très saint, non avec le sang des boucs et des veaux, mais avec son propre sang, ayant obtenu une rédemption éternelle. » Et enfin, au chapitre 7 et au verset 27, toujours de cette lettre aux Hébreux, « Il nous convenait en effet d'avoir un souverain sacrificateur comme lui, saint, innocent, sans tache, séparé des pécheurs et plus élevé que les cieux, qui n'a pas besoin, comme les souverains sacrificateurs de la terre, d'offrir chaque jour des sacrifices, car il l'a fait une fois pour toutes, en s'offrant lui-même. Une fois pour toutes. Nous avons, frères et sœurs, un défenseur qui nous permet de dire tout est accompli. D'ailleurs, Jésus a dit tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, mais il a dit sur la terre aussi. Hein. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Dans cette lettre aux Romains, toujours au chapitre 8, un troisième verset, c'est là cette triple victoire, au verset 26-27, il est dit « De même aussi, l'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander dans nos prières, mais l'Esprit lui-même intercède par des soupirs inexprimables, et celui qui sonde les cœurs connaît quelle est la pensée de l'Esprit, parce que c'est selon Dieu qu'il intercède en faveur des saints. » Je vais vous le relire dans une autre version, ce même passage. Hein. L'Esprit nous aide dans notre faiblesse, car nous ne savons pas ce qu'il nous convient de demander. Car ce même Esprit qui nourrit notre espérance nous soutient. Il nous prend en charge avec nos faiblesses et nous aide dans nos limitations présentes. Il vient à notre secours quand nous prions. De nous-mêmes, nous ne connaissons guère nos droits et nos devoirs en nous approchant de Dieu. Nous ne savons pas prier efficacement. Nous ne trouvons pas les paroles justes. Alors l'Esprit lui-même intervient et plaide en notre faveur. C'est lui qui intercède en nous. Il y a une nuance, ce n'est pas pour nous, c'est en nous. Il intercède en nous, c'est plus juste cette traduction, sans parole, dans des soupirs qui montent du plus profond de nos cœurs. Et Dieu qui lit dans les cœurs et y scrute les pensées les plus secrètes, comprend le langage de l'Esprit. Il connaît ses aspirations, il sait discerner le sens de ses soupirs, car l'Esprit intercède pour nous, son peuple, en harmonie avec la volonté de Dieu. Comprenez-moi bien. Le Saint-Esprit établit la conversation entre nous et Dieu. On n'arrive pas à le faire. Alors le Saint-Esprit vient nous aider à invoquer Dieu, à demander à Dieu de l'aide. Quelquefois, il nous inspire, on ne sait pas comment il faut prier, puis d'un coup, on sait comment il faut prier. C'est le Saint-Esprit qui met ces pensées-là dans notre cœur. Il fait le lien, en somme. D'ailleurs, Jésus dira, « Je vous enverrai un autre consolateur, le Saint-Esprit, et il vous conduira dans toute la vérité. » Donc, on a besoin de cet éclairage pour savoir comment prier, comment demander à Dieu sa grâce et son aide. Je note quand même, pardon, c'est la diapo suivante, je ne voulais pas vous la montrer avant. Je note quand même que Jésus n'est pas notre paratonnerre. Ce n'est pas notre paratonnerre. Je m'explique. Ça signifie qu'il n'est pas là pour prendre aujourd'hui les coups à notre place. Il n'est pas notre ange gardien aujourd'hui. Les coups, il les a pris une fois pour toutes. Les coups, il les a supportés une fois pour toutes. Quand la Bible dit qu'il intercède pour nous, il ne prend pas des coups aujourd'hui hein, pour nous. Il peut juste se présenter devant son Père en disant « C'est fait. Moi, j'ai tout fait. Si lui ou elle ne saisit pas, moi, je ne fais rien de plus. » C'est ça la réalité. Certains pensent que Jésus, c'est leur paratonnerre. La foudre va tomber, mais comme il est au-dessus de nous, c'est lui qui prend la décharge et nous, on est protégés. Non, non, ce n'est pas ça que ça signifie. C'est pas ça que ça signifie. Il est juste pour nous, aujourd'hui, dans nos cœurs, dans notre esprit, devant nos yeux. Il est le témoin du tout accompli. Il est le témoin du tout accompli. Il nous dit aujourd'hui, ne crains pas. Tu peux demeurer dans la victoire. J'ai tout accompli. Et c'est là où nous agissons par la foi. Et c'est là où nous faisons un acte de foi. Si quelqu'un veut résister au piège du diable, de Satan, il le peut. Il le peut. Ça ne veut pas dire que c'est facile, hein. Ça ne veut pas dire que ça se fait très facilement, mais il le peut. Si quelqu'un ne veut pas résister, il peut tomber aussi. Des masses, il m'a abandonné par amour pour le siècle présent. Pourtant, il a cru que Jésus avait pardonné ses fautes. Il a cru que Jésus l'avait sauvé pour l'éternité. Il n'avait pas tort, mais il a abandonné. Que dire de Judas ? Il a fait des miracles dans le nom de Jésus. Lorsque Jésus les a envoyés deux par deux, il a accompli des prodiges, il a chassé les démons, il a fait des choses extraordinaires, il a vu, il a vécu, il a participé à des moments extraordinaires. N'empêche qu'il a tout perdu. Il pouvait résister. Il pouvait résister à cet appât du gain. Dites, vous croyez que c'est par hasard que Jésus s'est trompé en le mettant gardien de la bourse, sachant que c'était un voleur? Il sait tout, Jésus. Il le savait. Mais est-ce que ce n'était pas lui donner une chance de combattre cette faille au-dedans de lui, cette cupidité qu'il habitait, cette avarie, cet amour de l'argent? Est-ce que ce n'était pas une occasion pour lui d'en être délivré? Mais il a gardé ça secret, il a gardé ça pour lui. Et puis à un moment donné, il a basculé du mauvais côté. Il a préféré avoir de l'argent et perdre sa communion avec son Seigneur et qui plus est, le trahir. Fallait bien que cela se fasse, mais malheur par qui la trahison arrive, hein, c'est ce que dit l'Écriture. Alors, il pouvait résister. Je vais vous donner un exemple très bref. David, le roi David, un homme vraiment béni. Et d'ailleurs, on dira de lui, c'est même un roi ennemi qui dira de lui en parlant de David, « Je sais que tu es un homme bien, car tu es agréable à mes yeux comme un ange de Dieu. » Cet homme rend le témoignage à David, « Pour moi, tu es un homme parfait, c'est extraordinaire. Quand je te vois, je vois un ange de Dieu. » Quel compliment, hein ? Quel compliment. Je ne sais pas si on vous dit ça, vous, hein ? Non ? Quand vous voulez prendre le volant, vous dites « Donne-moi le volant, tu seras un ange. » Mais voilà, ça c'est galvaudé, hein ? Évidemment, c'est galvaudé. Non, tu es comme, pour moi, tu es comme un ange de Dieu. Juste après avoir entendu ça, David rentre à la maison avec ses hommes. Ils étaient partis en croisade. Ils étaient partis en voyage. Et puis, à l'époque, malheureusement, les voyages, c'était des guerres. Quand ils rentrent à la maison, grand malheur, pendant qu'ils étaient partis, les hommes armés, une autre troupe est arrivée dans la ville et a enlevé énormément de personnes, les femmes, les enfants, tous ceux du village. Il y a eu des morts, on a brûlé la ville. Ça a été catastrophique. Quand David rentre, d'un coup, il réalise qu'il vient de se passer un malheur. Ils arrivèrent à la ville, elle était brûlée, leurs femmes, leurs filles, leurs fils étaient emmenés captifs. La Bible dit que David et le peuple qui était avec lui élevèrent la voix et pleurèrent jusqu'à ce qu'ils n'eussent plus la force de pleurer. Mais c'est sûr. Vous êtes tout en haut, on vous félicite, on vous rend les honneurs. L'instant d'après, vous êtes au fond du gouffre. C'est terrible, hein ? C'est terrible. Quelle injustice ! Parce que David, qui était le chef de tous ces gens-là, il va être dans une grande angoisse. Vous savez pourquoi ? Parce que devant le malheur, ils vont tous perdre la tête. Hein. Ils vont dire, mais c'est de la faute de David, ça. C'est de sa faute à lui. Il faut toujours un bouc émissaire. Hein. C'est de sa faute à lui. Hein. Et ils vont commencer à être habités de colère et de haine jusqu'au point qu'ils ont voulu le lapider, le tuer, séance tenante. David a été angoissé à ce moment-là. Mais écoutez bien. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. David reprit courage en s'appuyant sur l'Éternel, son Dieu. Frères et sœurs, quand on a des moments de mou, quand on se dit « j'ai pas envie de perdre mon salut, j'ai pas envie de perdre la grâce que j'ai trouvée en Dieu », souvenez-vous qu'il y a de la ressource, mais la ressource, elle est en Dieu. Elle n'est pas ailleurs. Démas, Judas, Géasi se sont trompés. La ressource est en Dieu, elle n'est pas ailleurs. Alors comment ont-ils été vaincus ? Eh bien, je conclurai avec cela. Ils ont été vaincus parce qu'ils ont négligé et oublié le pouvoir et la supériorité de la grâce qu'ils venaient de découvrir. Ils n'étaient plus sous la loi. L'apôtre Paul le dit aux Romains, c'est dit au chapitre 6 et au verset 14, Romains, chapitre 6, verset 14, « Car le péché, écoutez bien, le péché n'aura point de pouvoir sur vous, puisque vous êtes non sous la loi, mais sous la grâce. » Vous imaginez ? Le péché n'a pas de pouvoir sur toi, mon frère, ma sœur, n'a pas de pouvoir sur nous, parce que nous sommes sous la grâce, et Jésus a payé le prix, et nous ne sommes pas sous la loi qui condamnait et qui condamne encore aujourd'hui. Deuxièmement, ils ont été vaincus parce qu'ils ont méprisé et minimisé le pouvoir et l'autorité de la parole de Dieu. Quand Jésus a été tenté dans le désert par Satan, Satan va utiliser les textes de la parole divine pour entraîner Jésus à commettre des fautes. Mais Jésus répondra trois fois à Satan, « Il est écrit ». Il a répondu par la parole, par par la parole inspirée, par la parole divine. C'est la même chose pour nous. Dans la première épître de Jean, au chapitre 2 et au verset 13 et 14, il est dit « Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Je vous écris, petits enfants, parce que vous avez connu le Père. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous êtes forts, que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. » Ils ont vaincu le malin. Comment ? Parce que la parole de Dieu les habitait. La parole de Dieu était en eux. Ne méprisons pas, ne minimisons pas le pouvoir et l'autorité de la parole de Dieu. Un seul mot de la part qui sort de la parole de Dieu, un seul mot de Dieu, un seul mot qui vient de l'Écriture peut vaincre l'adversité, peut vaincre l'adversaire et nous donner la victoire. Amen. Et puis la troisième chose pour laquelle ils ont été vaincus, c'est qu'ils se sont laissés séduire et captiver. J'ai presque envie de dire, je le mets entre guillemets, mais envoûtés par cet amour de l'argent, quoi. Précipités, à corps perdu, dans un monde brillant, mais qui était un monde éphémère, hein. C'est dit dans cette même épître de Jean, c'est les versets qui suivent ce que je viens de vous lire. Il est dit « N'aimez point le monde, ni les choses qui sont dans le monde. Car si quelqu'un aime le monde, l'amour du Père n'est point en lui. Car tout ce qui est dans le monde, et là il y a des précisions, hein, la convoitise de la chair, la convoitise des yeux, l'orgueil de la vie, ne vient pas du Père, mais vient du monde. Et le monde passe, et sa convoitise aussi. Mais celui qui fait la volonté de Dieu demeure éternellement. » Alors en fait, au chapitre 5 de cette première épître de Jean, il est dit « Tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. » Triple victoire, j'en reviens là, triple victoire, on a commencé par cela. Sur le péché, en vertu de l'Évangile, ne négligeons pas, n'oublions pas le pouvoir et la supériorité de la grâce sur la loi. Victoire sur Satan, en vertu de la parole de Dieu, ne méprisons pas, ne minimisons pas le pouvoir et l'autorité de la parole de Dieu. Vous l'avez vaincu, Satan, parce que la parole de Dieu habite en vous. Et troisième victoire qui nous rend heureux, c'est sur le monde qui voudrait nous appâter comme Démas, comme Géasi, comme Judas. Ne nous laissons pas séduire, ne nous laissons pas captiver par le message et l'œuvre de Jésus à la croix, par la parole qui nous a été donnée finalement et par la foi qui nous habite, nous sommes victorieux. Voilà pourquoi je disais en commençant que être heureux chez le chrétien, c'est un sentiment, mais c'est un état normal parce que ça vient de l'intérieur. C'est parce qu'on vit cela à l'intérieur. Est-ce que vous le vivez cela à l'intérieur ? Est-ce que vous êtes peut-être chancelant actuellement ? Faites confiance au Seigneur. Apportez-lui toutes vos questions, toutes vos requêtes, toutes vos inquiétudes. Apportez-lui tout cela et vivez heureux. Nous sommes heureux. Heureux sont vos yeux, disait Jésus, parce qu'ils voient. Et vos oreilles, parce qu'elles entendent. Nous voulons voir la puissance de Dieu dans nos vies. Nous voulons entendre Dieu nous dire « Je suis avec toi tous les jours jusqu'à la fin du monde ». Nous voulons voir et entendre encore ces promesses qui sont pour nous. Seigneur est fidèle, il est bon. Pas de défaite en vue, frères et sœurs, mais entretenez la victoire. Vivez dans la victoire que Dieu a accomplie pour nous et réjouissons-nous en lui. Le meilleur est à venir, frères et sœurs. Le meilleur demeure devant nous. Si nous sommes dans sa main, personne ne pourra nous en ravir. Et si nous sommes dans sa main, nous sommes sûrs que c'est vraiment vers le meilleur que nous allons. Amen. Prions ensemble. Seigneur, nous te rendons grâce et nous te bénissons pour ta parole. Nous te bénissons pour ces quelques mots échangés maintenant et je te prie de faire ton chemin dans le cœur de chacun d'entre nous. Nous avons toujours besoin de défricher un champ nouveau dedans de nous. Nous avons toujours besoin de faire de la place pour que ta parole s'inscrive et s'installe toujours mieux dans nos cœurs et dans nos vies. Merci de ces moments, merci de ce temps de culte. Tu béniras la semaine qui est là devant nous, tu béniras encore les jours à venir, tu béniras notre rendez-vous de la semaine prochaine, à nouveau ce culte. Oui, tu te glorifieras encore. Merci pour ta faveur, Merci de sauver, de délivrer celui qui est angoissé, celui qui ne va pas bien. Ta parole nous l'a bien expliqué. Nous avons une libre entrée devant le trône de notre Dieu. Nous pouvons nous approcher de Dieu. Le Saint-Esprit va intercéder en nous. Il va faire son œuvre en nous afin de nous donner les mots, afin de nous expliquer comment nous approcher de Dieu. Nous avons le témoin qui nous rappelle que tout est accompli. Christ est vivant. Il est à la droite du Père. Il reviendra bientôt chercher l'Église. Et en attendant, nous voulons vivre dans la foi, par la foi, dans la victoire, en connaissant encore de belles choses. Que ton nom soit béni. Raccompagne-nous dans ta paix et dans ta grâce. Et qu'à ton nom seul soit toute la gloire, Seigneur. Amen.